18h38 dans RTL Soir, votre deuxième invité, Marc-Olivier Fogiel.
Document RTL, donc en ce jour d'hommage national à Xavier Jugelet, ce policier tué jeudi soir sur les Champs-Élysées, et près d'un an après la mort de Jessica Schneider et de Jean-Baptiste Salvin à Magnanville. Le père de Jean-Baptiste, Jean-Paul Salvin, est avec nous. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté donc cette interview. François Hollande a honoré ce matin la mémoire de Xavier Jugelet. Le 13 juin dernier, c'est vous qui perdiez votre fils et votre belle-fille tués à leur domicile par Larossi Abala. J'imagine que l'attentat des Champs-Élysées réveille cette blessure chez vous un an après quasiment.
Bien entendu. Et on a... Toutes nos pensées vont à la famille, aux amis. Vous savez, quand on a vécu quelque chose comme ça, on sait ce que vivent les autres. Donc on est un peu plus touché, certainement, et un peu plus avec eux, en tout cas.
Vous avez entendu le compagnon de Xavier qui a eu ces mots trading. Cette douleur m'a donné le sentiment d'être plus proche que jamais de tes camarades qui souffrent, comme toi silencieusement, comme moi silencieusement. Pour ce qui me concerne, je souffre sans haine. Vous vous êtes retrouvé, vous, M. Salvin, dans ce discours ?
Bah, écoutez, vous savez, au mois de juin l'année dernière, quand on avait été interrogé, l'intervention que j'avais faite, moi, lors des obsèques à Pézenas, chez nous, de Jean-Baptiste et de Jessica, j'avais insisté sur cet élément-là, que nous n'avions pas de haine.
Je me souviens, vous aviez repris les mots d'Alfred de Musset, et par une fois, du moins, le tourment de la haine.
Alfred de Musset, voilà. S'il est fort et trop grand pour la faiblesse humaine de pardonner les mots qui nous viennent d'autrui, épargne-toi du moins le tourment de la haine. Voilà, ça nous a paru quelque chose d'évident, de salutaire pour nous, pour pouvoir faire le deuil. Voilà, j'apprécie aussi que cette personne ait la même réaction, soit dans la même mouvance. Je crois que ça, c'est important.
François Hollande avait salué l'année dernière, il l'a refait aujourd'hui, la mémoire de deux héros du quotidien. C'est comme ça que vous les qualifiez finalement, ces forces de l'ordre qui sont sur le terrain et qui sont des héros anonymes du quotidien.
Oui, pourquoi pas. Mais je crois que ce qui est apparu surtout, c'est pour nous nous apercevoir de l'extrême difficulté du travail qu'ils font. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont toujours pris au milieu de la violence, qui sont toujours en équilibre. Et donc je crois que c'est probablement une des professions à l'heure actuelle qui est le plus difficile à assumer.
Vous disiez tout à l'heure cette fameuse expression pour pouvoir faire le deuil, un an après. Vous dites que vous l'avez fait, vous êtes sur le chemin de le faire, ou alors finalement il ne se fera jamais ce deuil?
Non. Bon, on est en chemin, mais le deuil il n'est pas fait encore. J'espère qu'il sera fait un jour. Et puis aussi, ça veut dire quoi de faire le deuil? Pour le moment, on franchit des étapes. Hein. C'est une nouvelle existence qui est là pour nous. On franchit les étapes. Après, l'étape émotionnelle qui était au départ, après l'incompréhension, la colère. Aujourd'hui, on est plutôt dans une étape où on s'aperçoit qu'en fait, il n'y aura pas de retour. Vous savez, dans la première étape, on pense toujours qu'ils vont revenir. Mmh. Et là, aujourd'hui, la raison l'emporte. On sait maintenant qu'ils ne vont pas revenir. Et puis, on s'aperçoit qu'en réalité aussi, ce n'est pas un fils qu'on a perdu, mais plusieurs. Hein, on a perdu un fils de 40 ans, oui, mais on perd aussi un fils, un adolescent, un enfant, un bébé. Et pour la mère, c'est encore plus difficile, puisqu'elle perd en même temps aussi un bébé, un enfant qu'elle avait dans son ventre. Et c'est tout ça qu'on perd, et c'est tout ça qu'on réalise aujourd'hui.
Je comprends bien, alors j'imagine que ce qui vous aide peut-être à tenir, c'est vos petits-enfants, Hugo et Mathieu. On avait été extrêmement émus l'année dernière, puisque le petit garçon de 3 ans, à l'époque du drame, a assisté à la mort de sa maman. C'est vous qui vous occupez de lui aujourd'hui, c'est ça, Monsieur Salvin ?
C'est cela, oui, c'est ma fille, qui est donc la sœur de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui est maintenant tutrice de Mathieu. Et Mathieu vit avec elle et avec ses deux enfants. Et pour l'instant, il faut dire que ça se passe bien, que Mathieu évolue bien, et qu'il est bien évidemment suivi par une psychologue qui est tout à fait extraordinaire. Mmh. Et ça se passe bien.
À l'époque, quand le RAID avait pu le récupérer, il était en état de sidération clinique. C'est comme ça qu'on nous l'avait décrit. Aujourd'hui, il est revenu à une forme de réalité, ce petit bonhomme ?
Ah oui, il a exprimé très tôt, hein, même dès la première nuit, il avait exprimé au psychologue de l'hôpital Necker ce qu'il avait vu. Il était en état de sidération, mais bon, il a vu quand même, et la mémoire est là. Mais là, aujourd'hui, il est capable de pouvoir exprimer, de pouvoir parler, sans que ça provoque de trop grosses émotions chez lui. Donc c'est un travail qui est en train de se faire.
Il a compris que ses parents n'étaient plus là ?
Alors, il a compris que ses parents n'étaient plus là, mais il n'a que 4 ans. Mmh. Donc, je crois que pour les enfants, à partir de 4-5 ans, ils commencent à réaliser que réellement ils ne verront plus. Je crois que lui, il entre dans cette phase-là.
Mmh. Il a assisté à une scène de violence insoutenable. Elle le hante, cette scène. Il fait des cauchemars, ce petit bonhomme.
Non, alors il dessine, il exprime à la psychologue ou à nous, etc. Mais il n'a pratiquement jamais fait le cauchemar, non. Mais parce qu'il a pu l'exprimer, parce qu'on le lui a fait exprimer, oui.
Hugo, son demi-frère de 10 ans, qui vit lui avec sa maman, et ce petit Mathieu ont été reconnus pupilles de la nation?
Non, ils n'ont pas reconnu. Un dossier est en train d'être établi. Donc c'est ce qu'avait demandé le président de la République, qu'il puisse être reconnu pupille de la nation. Mais donc c'est assez long, vous savez. Donc un dossier a été établi et ce sont les juges qui décideront si on leur donne le statut de pupille ou non. Mais pour l'instant, ils ne le sont pas.
À propos de l'enquête, un an après ou quasiment, vous disiez à l'époque que l'enquête n'était pas votre priorité. Monsieur Salvin, cela ne sert à rien de ressasser ce qui s'est passé. Est-ce que malgré tout, vous en savez plus? Est-ce que vous savez, par exemple, si Larossi Abala, qui a été tué lors de l'assaut du RAID, finalement, s'il savait qu'il s'attaquait à deux policiers? On le sait, ça, précisément, un an après?
Mon sentiment à moi, c'est que oui, il a pas pris Jean-Baptiste au hasard.
En tout cas, il était fiché S. Il avait déjà été condamné à 3 ans de prison, dont 6 mois avec sursis en 2013 pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes. Concernant l'attentat des Champs-Élysées, Karim Cherfi, lui, avait un lourd passé judiciaire, mais il n'était pas fiché S. Vous pensez qu'il y a des défaillances dans la surveillance avant le passage à l'acte de ces terroristes?
Mais a posteriori, au vu de ce qui se passe, on ne peut répondre que oui. Mais la réalité est tout autre. Est-ce que nous avons les moyens de mettre à l'abri ou de pouvoir s'occuper de tous ces gens-là? Est-ce que, ou non? Est-ce que il y a aussi des choix politiques, des choix de société? Et ça, là, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut penser. Moi, je regrette bien évidemment que cet homme-là n'ait pas été mis hors d'état de nuire. Mais je comprends en même temps, même si ça peut paraître bizarre, qu'un juge n'ait pas jugé qu'il fallait absolument l'arrêter. Voilà. Même si ça me fait mal, je le comprends.
Et c'est tout à votre honneur. Monsieur Salvin, je vous remercie beaucoup de votre témoignage ce soir. Merci à vous. Merci de votre dignité. Est-ce que vous voulez délivrer pour conclure un message peut-être aux proches de Xavier Jugelet?
Je crois qu'il faut espérer. Voilà. Moi, ce que, au bout de 10 mois... Je crois que ce qui apparaît, c'est qu'il faut laisser le temps au temps, il faut laisser les étapes se faire une à une. Je crois se rendre compte aussi que ce qui nous arrive aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard, qu'on est tous responsables. Il n'y a pas que ou d'un côté les politiques, ou etc. Mais tout le monde, chaque citoyen est responsable de ce qui se passe. Aujourd'hui, on est à une croisée de chemin, vous savez. Je crois que la société humaine n'a jamais été aussi forte, mais aussi fragile. Et c'est à nous à faire des choix de solidarité, de paix, d'amour, de bonté, etc. Personne ne pourra le faire pour nous. Voilà,
c'est la bienveillance qui vous anime.
C'est la bienveillance aussi, mais pour tout le monde, c'est pas. Il y a déjà des gens qui sont sur ce chemin-là. Ben, il faut les suivre. Et il faut garder l'espoir. Moi, je suis plein d'espérance.
On va terminer sur ce message d'espoir, d'espérance et de paix. Merci beaucoup, Jean-Paul Salvin, d'avoir été en ligne avec nous de Pézenas. Merci à vous.
Merci, au revoir.
Merci, monsieur.